Let's kill all the lawyers.
Les in et les off de Droit en scène, saison 5, par Emmanuel Saulnier-Cassien. Le Festival d'Avignon s'est terminé après 218 représentations dans le IN, qui a rempli les salles à environ 91%, une fréquentation en baisse par rapport à 2024, et dans le OFF, en dépit d'un nombre de représentations très inférieur à 2023, c'est-à-dire 24 664 au lieu d'environ 33 000, le taux de remplissage des salles aurait baissé d'au moins 15%. En dépit de ces redoutées conséquences de l'avancement des dates de début du festival, du fait des JO et du raccourcissement de 5 jours pour le OFF, qui explique largement ce bilan chiffré décevant, de très beaux spectacles ont encore été créés la semaine dernière et je vous propose d'en découvrir certains dans un quatrième et dernier épisode des IN et des OFF de la cinquième saison de Droit en scène, centré cette fois sur des spectacles venant apostropher les États après les législateurs interpellés et la justice sollicitée des trois précédents épisodes. La question des migrations et de l'asile est restée, comme les années précédentes, un sujet de réflexion majeur dans les programmations du IN et du OFF, qui permet à certains auteurs des réflexions de fond sur la responsabilité des États, en remontant aux conquêtes coloniales ou à la réactivité insatisfaisante ou au manque d'implication dans des conflits actuels qui accentuent les difficultés des parcours migratoires. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла яскувочка, стала собі щебетати, господаря викликати, аж з-под неба щебетала, господа жив, вчонж волала, вийди, вийди, господарю. Commençons par évoquer Mothers, A Song for Wartime de Marta Gornishka. Le spectacle, qui avait été initialement annoncé pour la précédente édition du IN et qui n'avait fait l'objet finalement que d'une unique lecture au musée Calvé, a pu être présenté cette année dans la cour d'honneur pour 3 représentations seulement. La perfection atteinte par la metteuse en scène polonaise et le groupe de plus de 20 femmes qu'elle a dirigées sur le plateau est époustouflante. Des placements qui s'enchaînent pendant une heure sans interruption de manière géométrique sont millimétrés. Les voix des chœurs comme des solistes sont puissantes et précises, que ce soit dans les chants folkloriques ou les cris guerriers, dans une coordination parfaite sous la baguette de la metteuse en scène qui dirige au sens propre depuis les gradins au milieu du public, telle une véritable chef d'orchestre qu'elle est en l'occurrence. La gestuelle et les expressions des visages sont totalement contrôlées, tout en laissant passer des émotions très fortes. Les textes, en langue polonaise, ukrainienne et biélorusse, sont comme des armes précisément lancées et qui atteignent le but politique qu'ils se sont fixés. L'Europe est interpellée. Marta Gornishka fait dire aux femmes que l'Europe a un traumatisme de guerre, qu'elle ne peut pas tuer la guerre. Mais plus que l'Europe, et à juste titre, ce sont les États et les citoyens qu'elle invective. Nous sommes les protagonistes de cette guerre, et si nous ne comprenons rien, nous pouvons rendre nos billets et quitter le théâtre. Mais comment pourrait-on ne pas comprendre et rester indifférent? Avant d'ouvrir un chapitre précisément intitulé « Sur l'espoir et l'indifférence », Marta Gornishka fait se raconter des parcours individuels de mères et de femmes violentées par la guerre sans jamais être racoleuse ou politiquement correcte, et en refusant le terme de victime. Qu'elles aient 9 ou 72 ans, ces femmes forcent l'admiration tant pour leurs prestations artistiques que pour les témoignages qu'elles relaient dans le contexte de cette guerre qui semble avoir été un peu oubliée au Festival d'Avignon. Les voix ukrainiennes ont été en effet étonnamment peu présentes dans cette édition, mis à part une programmation spécifique de la manufacture dans son dispositif Pavillon du futur, avec notamment 3 pièces et une rencontre en partenariat avec la maison Jean Villard sur la littérature ukrainienne en temps de guerre. Si des artistes participant à la 78e édition du festival, avec des invités spéciaux aux côtés de la ville d'Avignon, des organisateurs du HOF, de la CGT Spectacle, du Syndéac et acteurs de la société civile, se sont mobilisés en passant une nuit, celle du 4 au 5 juillet, dans la cour d'honneur pour, je cite, « contrer l'inéluctabilité supposée de la victoire de l'extrême droite », en vue d'entrer en célébration plutôt qu'en résistance au soir du 7 juillet, on ne peut regretter qu'une mobilisation équivalente n'ait pas été orchestrée pour l'Ukraine, donnant l'impression que la guerre qui fait toujours rage sur notre continent a largement été oubliée, alors que les artistes ukrainiens, tout comme leurs habitants, méritent non seulement toujours notre appui logistique, mais également notre soutien sur le plan culturel. Comme Marta Gornishka l'a écrit, au moment où l'Ukraine crie, nous avons besoin de pratiques antérieures à la naissance du théâtre, pratiques que propose le cœur. Nous avons besoin du théâtre et de son pouvoir de changement, de son pouvoir de rappeler ce qu'il y a de plus monstrueux et que le traumatisme de la guerre voudrait supprimer du champ de vision. D'un théâtre aux nouvelles formes de solidarité et aux nouveaux rituels. D'un endroit où un monde meilleur est imaginable et possible.
Gwałt jest wojenną strategią militarną w Ukrainie. Wszystkie zgłoszone przypadki są tylko wierzchołkiem góry lodowej. Odnotowane zdarzenia nie odzwierciedlają rzeczywistości, ponieważ przemoc seksualna jest milczącą zbrodnią.
Władze Rosji nie przyznają się do gwałtów. Opowieści o nich odrzuca się jako zachodnią propagandę fake news. Władze Rosji nazywają informacje o zabójstwach i gwałtach w Buci kłamliwą prowokacją.
L'artiste polonaise a pu néanmoins faire entrer les cris et mélodies de ses impressionnantes choristes dans les murs du palais pour l'éternité et donner, avec la Tchetchev Drivka, une chanson traditionnelle ukrainienne, l'espoir d'un renouveau, d'une renaissance, après les atrocités des viols qui sont des armes de guerre dans le monde entier et une stratégie militaire en Ukraine, pour reprendre les mots de Pramila Patten, la représentante spéciale des Nations Unies en charge des violences sexuelles dans les conflits armés, qui est expressément citée dans le spectacle. Une contre-lamentation, un chant de liberté et de vie. En attendant de voir ce spectacle en tournée, notamment en France au Théâtre du Rond-Point à Paris en octobre, je renvoie les auditeurs au Café des Idées du 21 juillet 2023, co-organisé par la revue Esprit avec le festival, où nous avions échangé avec Marta Gornishka sur « Penser le projet européen face à la guerre », captation qui est toujours en ligne sur le site du festival. Pour son dernier spectacle Sea of Silence, qui est la phase finale d'une recherche de plusieurs années sur les chemins de l'exil, vers lesquels les femmes sont poussées ou contraintes, l'artiste uruguayenne Tamara Cubas donne la parole à celles qui n'ont pas quitté leur pays, refusant d'abandonner leur famille, leur culture ou leur identité. Le plateau, recouvert de 5 tonnes de sel, est arpenté par 7 femmes d'origines différentes, venant du Nigeria, d'Égypte, d'Indonésie, du Brésil, du Chili, du Mexique et d'Uruguay, croisant une 12aine de langues, partageant des danses, des postures, des chants, de leurs folklores respectifs et des confidences de leur parcours de femmes résistantes, mi-sorcières, mi-guérisseuses, mi-guerrières. Le sel parce que Tamara Kubas part du passage de la Genèse où la femme de Lot est changée en statue de sel dès qu'elle se retourne vers Sodome, en destruction. C'est cette femme désobéissante, en migration, que Tamara Kubas a voulu sacraliser dans cette performance qui rend hommage à toutes les femmes qui savent qu'elles n'ont d'autre choix que de regarder en avant. Un temps prisonnières du patriarcat, comme de la colonisation ou du capitalisme, elles ont développé des stratégies pour survivre, c'est-à-dire en mobilisant le désir pour rompre les règles, en utilisant leur potentia, c'est-à-dire leur pulsion de vie, pour se venger des violences physiques, verbales ou autres formes de séquestration et qui, ce faisant, se reconnaissent en tribus de femmes agissantes, puissantes.
What can I bring to you? What can I say to you? Should I sing for you? Ni ma benwe. What if I bring you food offering? Will it be enough? Will it be enough? What if I offer you jewelries and all forms of beautification? Will it be enough? Will it be enough to show your magnificence and royalty? Will it be enough? Will it be enough? What if I offer you my heart? What if I offer you my soul? What if I offer you my body? Will it be enough? Will it be enough?
Si Tamara Kubas ne s'affirme pas féministe et refuse généralement les mots en « isme », elle affirme avoir voulu créer dans Sea of Silence un rituel anticapitaliste, afin notamment de combattre les idées coloniales encore centrales dans la justification des guerres et la définition des frontières. Pour compléter l'aperçu de ce spectacle qui a été présenté au théâtre Benoît XII, je vous renvoie au Café des Idées du 3 juillet 2024 en partenariat avec la revue Esprit, où nous avons abordé en compagnie de l'artiste les spécificités des problématiques liées à l'exil pour les femmes d'Amérique latine. La captation est en ligne sur le site du festival. On peut trouver une forme de prolongation de ce discours dans le spectacle The Disappearing Act de Yinka Easy Graves. La danseuse et chorégraphe britannique, d'origine jamaïcaine et ghanéenne, évoque l'invisibilisation des femmes noires dans les cultures occidentales, en l'occurrence et en particulier l'héritage afro-caribéen en Espagne et ce qu'elle appelle les racines noires du flamenco. Dans le off, deux propositions poétiques très différentes abordent la question de l'exil. Tout d'abord, Rachid Akbal a présenté « Retour à Etak » au sein de la programmation du Théâtre du Train Bleu. Dans le cadre exceptionnel des jardins de l'ancien Carmel d'Avignon, qui est aujourd'hui devenu un tiers-lieu appelé la Respelinde, le comédien emmène son public en déambulation pour revivre le retour à Etak d'Ulysse, le plus ancien exilé de l'histoire. Le merveilleux conteur utilise ce passage de l'Odyssée d'Homère, accompagné de la contrebasse de Marc Bollinger, en s'offrant des digressions ou allusions à l'époque contemporaine et de la fermeté des États ou de leur opposition en matière d'accueil des étrangers. Dans une forme de théâtre participatif subtilement proposé au public et qui permet à chacun d'être qui Pénélope, qui Eurylope, qui Laërte ou Ulysse, et à tous d'être le cœur, Retour à Ithaque propose une approche pleine de grâce et de sens sur les questions de l'exil, de l'alternité, de la notion d'accueil, de la place des femmes dans une société patriarcale. Le spectacle « Après les ruines » de Bertrand Sinapi, créé en 2019 à Liège et qui s'est joué au 11 Avignon, implique également à sa manière les spectateurs en essayant de les placer non plus du côté des observateurs, peut-être lassés par la question migratoire, mais en position de devoir partir de chez soi. Ça veut dire quoi partir ? En mêlant des passages documentaires à la fiction, la compagnie Pardès Rimonim fait rimer les douleurs de l'arrachement et les écueils de l'accueil avec les vibrations de la contrebasse de Stéphane Scheib, qui accompagne avec différents registres musicaux le spectacle sur le plateau, mais également au moyen d'une installation plastique jouant avec des ombres chinoises. Si le propos gagnerait à être allégé, aussi bien du point de vue du texte que de la scénographie, pour avoir encore plus d'impact, l'on comprend que les instigateurs du projet ont voulu le nourrir abondamment en raison d'une implication depuis une décennie dans la ville de Metz, dont est originaire la compagnie. La rencontre avec l'écrivaine syrienne Wejdan Nassif, dont les mots ouvrent le spectacle, ainsi qu'avec les récits de nombreux témoins, était une matière d'une grande richesse et densité que les comédiens ont à cœur à transmettre avec conviction et passion. Si parfois la confusion entre les questions liées à la demande de nationalité et celle de la demande d'asile apparaît, la bureaucratie et l'étonnement que l'on peut légitimement éprouver à l'évocation des procédures et parcours à suivre par les candidats à l'asile est bien restitué, de même que la problématique linguistique, qui est également loin d'être anodine ni très bien connue. Parmi les autres spectacles vus à Avignon, on conseillera également en tournée Terminal d'Inès Barahona et Miguel Fragata, vu au cloître des Célestins, dans le Inn, qui est à sa manière une question d'exil dans un contexte écologique. Le spectacle part de l'histoire d'un monde dévasté par les crues que les habitants ont fui et qui partent à la découverte d'autres mondes et futurs possibles. Le projet initial de la compagnie portugaise Formiga Atomica était de partir d'enquêtes de terrain sur les attentes des populations face au dérèglement climatique et aux menaces diverses sur le vivant. Le résultat est un spectacle à l'esthétique poétique, mais un peu bavard et narratif, et qui se focalise plus sur la marchandisation du vivant que sur les routes en tant que telles de l'exil. Le quatrième épisode de la saison 5 des In et des Off de Droite en scène est terminé. Le festival lui aussi a donc refermé ses portes et donne rendez-vous au public l'année prochaine pour une 79e édition, dans le Inn où cette fois la langue invitée sera la langue arabe, dans un partenariat avec l'Institut du Monde Arabe. Après Boris Charmatz, cette année, l'artiste dit « complice » sera à nouveau un chorégraphe, en l'occurrence la capverdienne Marlène Montero Freitas, qui assurera le spectacle d'ouverture dans la cour d'honneur. En outre, sera confiée au metteur en scène Milo Rao la pièce « Itinérante ». Il faut noter également la volonté d'harmoniser totalement les dates du in et du off à partir de l'année prochaine. De belles perspectives donc pour notre sixième saison à venir des in et des off de Droite en scène en 2025. C'était les in et les off de Droite en scène. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur le site internet amicusradio.net, rubrique 3 en scène. Merci à Léo Bardot-Arango pour la coordination et la réalisation et à Cécile Arts pour la diffusion. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et à nous suivre sur les réseaux sociaux.